8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Qui n'a jamais menti par omission, politesse, pour ne pas faire de peine, pour raison d'État ou juste pour le plaisir? Et pourtant, on apprend dès l'enfance que mentir, c'est mal. Qui n'a jamais menti? Allez, avouez. Sur les réseaux sociaux, l'opinion a remplacé la dite vérité des faits, sachant que la vérité forcément de l'un n'est pas celle de l'autre. À l'heure des fake news, dans nos sociétés de la post-vérité, comment distinguer le vrai du faux, le mensonge nécessaire ou toxique, et toutes les vérités sont-elles vraiment bonnes à dire? On en cause avec vous qui nous écoutez et nos invités qui ne mentent jamais, c'est bien connu. Bonjour Oscar Brénifier.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, auteur de l'essai « Menteur » avec un point d'interrogation, phénomène du mensonge qui va paraître là bientôt au mois de mai aux éditions Ancrage, et vous nous direz en quoi le mensonge c'est un mal nécessaire ou pas sous l'angle philosophique. Un philosophe ça ne ment jamais, hein? Dites-moi.
Je ne sais pas ce qu'il ferait d'autre, sinon.
Le rire dit tout. Avec nous également, bonjour Pascal Froissart.
Bonjour.
Bon, je ne vous poserai pas la même question. Vous êtes directeur du CELSA Sorbonne Université, c'est une école en journalisme et communication à Paris. Vous êtes également professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, et notamment spécialisé dans la diffusion des rumeurs et des fausses informations. Auteur d'un livre, L'invention du fact-checking, Boston 1942-43, qui là encore va paraître au mois de mai aux éditions PUF, bah vous nous direz en quoi fact-checking, la vérification des faits, finalement n'est pas un concept si nouveau. Et d'ici une vingtaine de minutes, nous serons en ligne avec Thomas Rozek. Il est rédacteur en chef chez Binge Audio et auteur d'une série de podcasts sur les mythos célèbres. Et en fin d'émission, on retrouvera le monde des enfants de Charlie Dupio. On ne parlera pas des mensonges avec eux, mais des rêves à hauteur d'enfants. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, racontez-nous, allez, vos petits ou gros mensonges. On se dit tout, on attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins et de voisines.
Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.
Oscar Brénifier, dans votre livre « Menteur », alors vous parlez des différentes causes du mensonge, on y reviendra, que l'on mente par omission, ignorance, incohérence, prétention ou par habitude. Forcément, ça nous renvoie au concept de la vérité avec un grand V. Et d'ailleurs, vous vous dites, bah voilà, le mensonge, c'est finalement une rupture du discours. De quel discours vous voulez parler? Le discours officiel, le discours de la vérité?
Alors, ça ne vous embête pas parce que je suis un peu lent d'esprit.
Ah bon ?
Je vais répondre à votre question précédente qui était sur si le philosophe ment ou ment pas.
Alors, allez-y. Et,
oui, je suis un peu lent. Bah, je dirais que ce qu'on attend d'un philosophe, ça paraît un peu ironique, mais ce sont des beaux mensonges, vous voyez ?
Oui.
Parce que moi, j'essaie de sortir l'idée du mensonge, c'est une vision purement, on va dire, éthique, morale, c'est bien, c'est pas bien. C'est vraiment pas le souci, en tout cas, de mon travail. C'est de montrer les différentes, comme vous avez dit, causes du mensonge, formes du mensonge.
Oui.
Et je dirais que ce qu'on attend d'un philosophe, c'est pas qu'il soit sincère, mais qu'il vous fasse un discours qui est intéressant, ce que j'appelle un beau discours, là, sans ironie. Voilà, c'est surtout ce qu'on attend. Après, qu'il croit vraiment, les gens disent, est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit? Mais je dis, on s'en fiche. Si Kant croyait vraiment dans la raison pure, ce n'est pas notre souci qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il a écrit quelque chose qui est beau, qui a du sens, qui nous fait réfléchir. Donc j'essaie de sortir le mensonge de cette vision de sincérité bien mal,
oui.
De dire mais quelle est sa raison d'être et quelle est sa qualité du mensonge. Voilà.
Bien compris, là on voit bien l'angle philosophique. Pour revenir au discours de vérité, alors là c'est intéressant avec vous deux parce que vous avez deux angles différents, Pascal Froissart, en tant que professeur en communication et journalisme, mensonge nous renvoie à la notion de vérité. Tout à l'heure, je parlais de post-vérité, et notamment sur les réseaux. On a l'impression quand même depuis plusieurs années maintenant que l'opinion a remplacé la dite vérité avec un grand V, la vérité des faits. Et les journalistes, en l'occurrence.
Alors, je ne sais pas si ça a véritablement remplacé, mais c'est bien le discours que l'on tient là depuis effectivement une petite vingtaine d'années. On a une forme de défiance assez grande qui s'installe à la fois contre le paysage médiatique et aussi contre le paysage politique, c'est-à-dire les acteurs politiques comme les acteurs acteurs médiatiques deviennent des gens qui sont de, disons, plus suspects, voilà, plus suspects d'un agissement, d'une forme de on a l'impression que tout nous, on nous ment parce qu'il y a des intérêts supérieurs, etc. Donc finalement, depuis une petite vingtaine d'années, effectivement, il y a un discours autour de cette vérité. Mais maintenant, le concept de post-vérité n'est pas un concept philosophique, c'est un concept précisément qui a été créé par un journaliste pour dénoncer précisément ce qu'il entendait par des manipulations politiques. Et donc la post-vérité, ça n'existe pas véritablement. Mmh. En tout cas, moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je serais le premier intéressé à le savoir. Ce qui est intéressant, en même temps, c'est que les médias, comme le monde politique, sont des endroits où on fabrique. Alors, je ne sais pas si on fabrique de la vérité, mais on fabrique des réalités. C'est-à-dire, dans les médias, on rapporte la réalité, on la rapporte le mieux possible, pas toujours très bien. C'est un métier difficile, hein, le journalisme.
De plus en plus, on prend peut-être moins le temps aussi de vérifier justement les dites sources.
Exactement, le métier change. Hein. Il y a de plus en plus de journalistes, bizarrement, mais ils sont de moins en moins payés. C'est de plus en plus difficile de faire ce métier. Et pourtant, il y a de plus en plus d'organes médiatiques dans tous les sens. Alors, pas tellement chez les quotidiens, mais plutôt chez les magazines, chez les podcasts. Il y a une effervescence médiatique permanente, mais ça change complètement le paysage médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on revenait 50 ans en arrière, si on compare les deux, c'est deux choses très très différentes. Ouais. Et donc, c'est vrai que la question maintenant de rapporter la vérité aujourd'hui ou rapporter la réalité dans les médias est une question qui se pose de manière très aiguë aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a quelques années. En effet.
C'est ce que pense aussi le philosophe qui interroge aussi tous ces concepts, parce que vous parlez de mensonge, mais forcément ça nous renvoie à la notion de vérité. Est-ce qu'on est devenu méfiant vis-à-vis des dites vérités, des sachants, entre guillemets, Oscar Brunifier ?
Alors, ici, alors ça peut se rejoindre, mais en même temps, ça prend un peu à porte-à-faux peut-être ce qui a été dit juste avant, mais bon, c'est le problème de la philosophie, je vais dire. Mais je voudrais prendre l'idée de Nietzsche qu'il n'y a pas de fait, hein. Il n'y a que des interprétations. Pourquoi dit-il cela ? Un fait, on ne peut pas dire un fait, parce que le fait, il existe, mais dès qu'on le dit, il y a une transformation qui s'effectue nécessairement par le choix des mots, par le choix de l'angle. C'est ce qu'on voit quand les gens ont un accident. Ils ont un accident en commun, ils sont rentrés dedans. Mais quand vous voyez la manière dont chacun veut le décrire, il le décrit pas nécessairement parce qu'il veut mentir ou biaiser, mais simplement parce qu'on a la limite du langage, la limite de notre propre pensée. Voilà. Après, tout le problème du mensonge est de savoir dans quelle mesure on dit quelque chose en sachant qu'on aurait pu dire autre chose et qu'on choisit de dire quelque chose qui a un but de manipulation, de défense, voilà. Alors qu'on aurait pu dire autre chose. Et c'est ce décalage qui nous intéresse, entre quelque chose qu'on pourrait dire et quelque chose qu'on dit, voilà.
Oui, c'est ça. En même temps, on a l'impression qu'aujourd'hui, chacun détient la vérité, hein, et notamment sur les réseaux,
oui,
d'ailleurs.
Tout le monde peut être témoin, et tout le monde peut
expert
publier.
Expert aussi.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, le problème est celui-là, c'est qu'être témoin, c'est aussi, comme le dit Nietzsche finalement, c'est interpréter d'une certaine manière la réalité et donc assumer une forme de subjectivité. Sauf que précisément, les témoins ne sont pas formés à rapporter la réalité, à rapporter la vérité, et par conséquent, ils vont toujours dire « c'est la vérité, la seule, il n'y en a qu'une », alors qu'évidemment, ce n'est qu'une partie du tableau. La vérité, elle ne se donne jamais à voir dans son entièreté, et il faut la chercher. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, pour moi, est une sorte de maxime, c'est que la vérité, on la cherche bien davantage qu'on ne la trouve, en fait. C'est un vrai métier, c'est pour ça qu'il y a des journalistes, c'est pour ça qu'il y a des chercheurs, c'est pour ça qu'il y a des philosophes. La vérité est quelque chose qu'on gratte maintenant derrière le vernis, et il faut trouver la vérité, la vraie peinture qu'il y a derrière quelque chose qui se donne à voir. Et c'est vrai que les médias, c'est un vrai métier, et on a un peu tendance à taper sur les médias en disant « ils nous mentent et ils nous racontent n'importe quoi, ils sont le jouet des milliardaires ». Oui, peut-être, tout ça est peut-être vrai, mais néanmoins, pour accéder à la vérité, disons, sociale, la vérité politique, la vérité générale, les médias, c'est une très très belle porte d'entrée. Et il faut simplement prendre du recul, toujours avec les médias, comme on le prend du recul avec n'importe quoi. Lorsque je rêve pendant la nuit, et que je me réveille, je prends 10 secondes à me dire « est-ce est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que c'était la réalité? Surtout si j'étais dans les bras de quelqu'un qui m'était cher.
Ah bon, d'accord. Ça, c'est pas forcément un mensonge. C'est ça s'appelle un fantasme,
non,
peut-être.
Non, mais voilà, la réalité m'échappe d'une certaine manière. Et donc, ouais. C'est vrai que c'est vrai dans la vie, c'est vrai aussi pour les médias.
Si le philosophe s'intéresse aussi au phénomène du mensonge, Oscar Brenifier, forcément, vous êtes un philosophe connecté, j'imagine. Vous avez l'impression qu'on est tous devenus des super méga menteurs. Alors, ça dépend selon différents mécanismes avec les réseaux, ou c'est juste parce que les réseaux sociaux complifient et visibilisent.
Oui. Alors, je vais vous dire, là, moi, mon ennemi, entre guillemets, ou ce que j'essaie de cibler, parce que bon, c'est pas tout à fait le même souci média. Moi, c'est pas tellement les médias qui m'intéressent, mais l'individu au jour le jour. Dans les réseaux sociaux, en effet, c'est le cas. Bah, ça vous paraît bizarre, mais mon ennemi, c'est la sincérité.
Ah bon?
Ce qui pose problème, c'est la sincérité.
Pourquoi?
C'est-à-dire quand les gens je sais que ça paraît toujours un peu bizarre, c'est quand les gens disent quelque chose, ils sont tellement convaincus de ce qu'ils disent, il y a plein, c'est surtout du sentiment derrière la sincérité, d'ailleurs je ne suis pas le premier à le critiquer, Sartre l'avait fait, mais c'est qu'on est pétri du sentiment, c'est-à-dire qu'on est coincé dans quelque chose. Il n'y a pas ce que j'appelais tout à l'heure le décalage. Le décalage, c'est quoi? C'est de dire, j'aurais pu dire autre chose. C'est pour ça que le dialogue est important et c'est ce qui manque dans les réseaux sociaux. En effet, je suis d'accord. Il n'y a pas de dialogue. Il y a des monologues qui vont soit se caresser mutuellement, soit qui vont s'affronter, s'insulter, je ne sais pas quoi. Mais il n'y a plus ce décalage entre différents discours et voir qu'est-ce qu'on aurait pu dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Bon, quand je dis à quelqu'un pour être gentil, instinctivement, je dis c'est très bien, t'es très gentil, c'est très bien ce que t'as fait. Est-ce qu'à ce moment-là, je suis conscient que j'aurais pu dire autre chose, ce que les Grecs appelaient, d'ailleurs, ils avaient un mot pour ça, c'est la parésia. Oui. La parésia, c'est la capacité, alors eux, ça avait une certaine vision morale, c'est la capacité de dire le vrai, indépendamment des conséquences. Or, bien souvent, quand on parle, inconsciemment, on a en tête les conséquences. Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on n'a pas ce décalage face à soi. Mmh. Et là, pour moi, la sincérité pose problème. Et je vais y opposer l'authenticité. Parce que l'authenticité, il y a une dimension réflexive, une dimension d'analyse, une dimension de problématisation. La sincérité, non. On croit, et on peut dire n'importe quelle bêtise en étant totalement sincère. Mais à ce moment-là, on n'est pas ouvert à ce décalage qu'on pourrait faire par soi-même et puis surtout par le dialogue, mais un vrai dialogue, pas un dialogue, oui.
Écoutez, on continue à poursuivre ce dialogue entre nous par sincérité ou authenticité, j'ai bien compris. On revient dans quelques instants sur RFI, on continue à parler des petits gros mensonges après R.S. Salvaje et ce titre « Quarteto Tefi » sur RFI. À tout de suite.
Salvaje, como el viento, yo te voy a querer sin lamentos, ay. Eres salvaje como el viento, yo te voy a abrazar. Eres mi elemento, amapola de campo. Te veo a lo lejos, te siento dentro mío. Te pienso y suspiro, roja ardiente con sangre. Nadas junto al río, me llenas el aire de vino,
we'll be right back.
RS Alvaré et Quartetto Tafi, un titre à retrouver sur la playlist de RFI, RFI Talent. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans 8 milliards de voisins et de voisines à l'heure des fake news et de la post-vérité. On parle des petits, des gros mensonges nécessaires ou toxiques avec nos invités Oscar Brénifié, philosophe, auteur de l'essai Menteur, phénomène du mensonge qui va paraître en mai aux éditions Ancrage, et Pascal Froissart, directeur du CELSA Sorbonne Université et professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, avec aussi un livre qui sort au mois de mai, L'invention du fact-checking, Boston 1942-43. Et ce sera aux éditions PUF. On attend vos témoignages à vous au 33 7 64 45 51 41. Et on a un premier appel de Mamadou qui nous appelle de Kaolack au Sénégal. Bonjour Mamadou.
Bonjour Laurence.
Merci d'être avec nous. Alors dites-moi, vous nous avez confié que vous aussi, comme tout le monde, hein, il vous est arrivé de mentir, mais pour préserver un secret de famille, hein, c'est ça? Racontez-nous.
Effectivement.
Alors racontez-nous.
Oui, parfois on est amené à faire le mensonge, non pas pour, par mauvais soi, mais pour garder un lourd secret, par exemple de paternité. Car si jamais ce secret est divulgué, cela risquerait de briser une famille. Alors, l'exemple s'est posé dans le cadre d'un héritage familial où l'on devait connaître le nombre d'héritiers, surtout le nombre d'héritiers, surtout dans nos familles,
oui.
C'est l'argent en Afrique. Voilà, alors on m'a posé la question de savoir quelles sont ces personnes, les personnes ou bien les fils qui font partie de l'héritage, et je n'ai pas pris le risque de donner tous les noms.
Ah, c'est ça. Mais pourquoi vous n'avez pas pris de risque de donner tous les noms? C'est pour un héritage, hein, c'est ça?
Voilà. C'était pour un héritage et je n'ai pas pris le risque de dire cette cruelle vérité que tel ne doit pas hériter.
Ah, c'est-à-dire qu'il y avait quoi? Des vrais faux héritiers
voilà.
Et vous n'avez pas
effectivement.
Et vous n'avez pas voulu dire, voilà, un tel, il ne fait pas partie de la famille, mais il a quand même droit à l'héritage, c'est ça?
Effectivement, c'était cela, parce que cela risquerait de... Voilà, c'est un lourd secret parfois qu'on ne veut pas ou bien qu'on ne peut pas divulguer.
Oui, c'est ça.
Dans ce cas, on ment pour ne pas détruire.
Voilà, pour ne pas détruire la famille. Et je crois savoir, il y a un proverbe hein, chez vous, Mamadou, concernant le mensonge. Vous pouvez nous le dire?
Voilà, on a l'habitude de dire que c'est nous, un mensonge qui répare vaut mieux qu'une vérité qui détruit.
Ah, un mensonge qui répare vaut mieux qu'une vérité qui détruit. Très beau proverbe.
Détruit, oui.
Alors, merci pour votre témoignage, Mamadou. Et belle journée à Kaolack. Je vais faire rebondir notre philosophe qui aime les mots, Oscar Brénifié. Un mensonge qui répare vaut mieux qu'une vérité qui détruit. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Oui. Disons, c'est comme tous les proverbes, vous voyez, on va appeler de la sagesse traditionnelle, vous voyez.
Oui.
Ils ont leur intérêt, ils ont leur part, on va dire, de vérité ou de réalité, mais il y a toujours un mensonge, il y a toujours un parti pris dans les proverbes. Vous pouvez prendre n'importe quel proverbe qu'on aime bien répéter, vous pouvez toujours voir en quoi il a un parti pris. Moi, le parti pris, pourquoi pas, hein, on peut très bien voir pourquoi la paix sociale, par exemple, a besoin de certains principes, comme celui que vous venez d'énoncer, afin d'éviter le conflit. Le problème, c'est quand on en fait un absolu. Et là, on commence à mentir parce que, si vous voulez, ça peut servir pour se dédouaner à tout instant. Voilà. Et il y a des moments, en effet, où il vaut mieux une vérité qui détruit, hein, pour des raisons X ou Y. Le tout, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on soit capable d'envisager la multiplicité des perspectives en disant « je choisis cela, mais je suis conscient que je le fais pour telle raison et je ne me raconte pas d'histoire ». Parce que le pire mensonge, ce n'est pas tellement celui qu'on fait à autrui. Il a une fonction, il est nature. Mais c'est surtout quand le mensonge devient tellement automatique, si vous voulez, qu'en fait, on se ment à soi-même. D'ailleurs, c'est tout le paradoxe du mensonge, parce que les parents vont dire aux enfants « il ne faut pas mentir, ce n'est pas bien de mentir ». Et qu'est-ce qu'ils voient? C'est que les parents vont dire « dis pas ceci au voisin, mensonge par omission, ça il ne faut pas le dire, ça c'est pas bien de le dire ». Oui, mais ils ne peuvent pas à la fois dire « il ne faut pas mentir » et puis de dire « ça il ne faut pas le dire parce que ce n'est pas bien ». Voyez.
Vous le dites, l'éducation c'est l'art du mensonge. Finalement apprendre à être poli, gentil, franc, tous les codes sociaux.
Oui.
De la gentillesse, soi-disant, pour vous c'est l'art du mentir vrai.
Oui, alors, si vous voulez, si les parents étaient honnêtes en disant, écoute, il faut que tu mentes aux voisins, moi ça me va très bien, qu'ils disent que c'est un mensonge. Parce que sinon, le pauvre enfant, il ne comprend pas. On lui dit de ne pas mentir, on lui dit de mentir aux voisins. Et c'est ce qui fait que souvent, le problème du mensonge, et c'est très confus parce qu'on a entendu des discours totalement contradictoires. Qu'on décide de mentir, ben pourquoi pas, il a des raisons d'être le mensonge, comme j'ai dit, c'est pour éviter les conflits par exemple, c'est pour faire plaisir, c'est pour, voilà, parce qu'en effet la vérité peut, elle est cruelle la vérité, elle peut faire du mal. Mais le problème c'est quand ça devient confus, on sait plus trop, vous voyez, et on le fait sans réfléchir, sans conscience. Je dirais que, et c'est là que la mauvaise foi intervient, parce que justement on dit des choses, on se ment à soi-même, mais on n'en est même plus conscient. Ça va paraître bizarre, parce que moi, le mensonge, il faut savoir que l'on ment. Bah oui, mais l'esprit il rentre tellement dans ces schémas-là qu'il devient confus, c'est plus trop. Il serait capable, comme l'a fait d'ailleurs Mamadou, c'est très bien, il dit bah oui, j'ai menti pour telle ou telle raison. Bon bah très bien,
mais pour la paix familiale,
bizarrement, ça devient vrai.
Oui, pour la paix familiale.
Mais à ce moment-là, ça devient vrai.
Ça devient,
c'est-à-dire qu'il ment en toute vérité. Ça paraît bizarre, mais au moins, c'est clair. Le problème, c'est quand c'est les zones grises, justement, où on ment et on ne sait même plus qu'on ment. Vous voyez, on n'a que il n'y a que des bonnes intentions, par exemple.
Ouais, j'ai bien compris.
Là, ça pose problème.
Pascal Froissart, bon, je ne vais pas vous faire réagir forcément sur les secrets de famille ou autre, mais vous, par exemple, vous étiez intéressé il y a un petit bout de temps déjà aussi au concept de la rumeur, vieux concept. Les choses qui se reproduisent. Alors forcément, là, avec les réseaux, la rumeur, elle est devenue virale aussi.
Alors oui, la question de la viralité dans les médias est assez importante et devient assez centrale. Alors par probablement la multiplication des réseaux, mais aussi par le fait que tout d'un coup on a ce sentiment d'être submergé par l'information et ce sentiment est un peu nouveau, c'est-à-dire que la multiplicité des sources d'information devient telle qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de sources officielles.
C'est ça.
C'est pas tout à fait juste si on constate, on regarde ce qui se passe effectivement sur les réseaux, pour les rumeurs comme pour les informations, c'est finalement très peu de production originale et beaucoup de commentaires sur des productions médiatiques. Finalement, c'est justement des articles de RFI qui vont se retrouver sur les réseaux commentés énormément. Ce sont des articles des fameux mainstream médias, là, des médias officiels, qui sont des petits articles détachés de leur contexte et qui tout d'un coup partent sur les réseaux de manière virale, commentés alimenté par une attention générale. Et donc ces effets-là, on ressemble à ce qu'on pense être la rumeur. Moi, j'ai plus l'impression qu'on fait plus attention à l'effet de rumeur qu'à la rumeur elle-même. C'est-à-dire, l'effet de rumeur, c'est cette espèce d'emballement médiatique permanent ou cet embrasement sur des sujets qui prennent trois jours d'actualité, puis trois jours après, on n'en parle plus. Et ça, c'est très étonnant de voir qu'on s'étonne que l'actualité ou les nouvelles vivent une vie qui n'est pas forcément rationnelle, qui est une vie, disons, sociologique, une collective, une vie qui échappe à la seule raison, à la seule importance du fait. Et quelquefois, effectivement, on voit que tous les médias se mettent à commenter un micro-fait qui n'a aucun intérêt. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on passe tant d'attention ? Bien, il se trouve que l'actualité, c'est quelque chose qui se construit. Il y a des normes aussi dans les routines journalistiques. Il y a la fameuse hiérarchie dans l'information qui fait qu'on met normalement en avant des faits plus importants que d'autres.
Des faits, et on en revient aux faits.
Des faits ou des événements, bien sûr. Alors, il y a un choix subjectif, et justement, cette subjectivité du monde journalistique fait que, quelquefois, quand il n'y a pas d'événements majeurs, on va mettre en avant des choses qui sont moins d'importance, qui ne seraient jamais sorties en temps normal. Ouais. Donc, c'est vrai que cette question de l'effet, comment dire, collectif de la circulation et ce qu'on peut appeler la viralité est quelque chose de très, très intéressant à étudier.
On a un nouvel appel au 33 7 64 45 50 41, et là, on prend la direction de la Côte d'Ivoire.
8 milliards de voisins.
Pour séparer.
C'est une émission pour tous les voisins et tous les voisines.
8 milliards de voisins, voisines. Construisons la vie ensemble.
Et c'est Daniel qui nous appelle, d'Abidjan. Bonjour Daniel.
Oui, allô, bonjour, la fille.
Alors dites-moi, Daniel, il paraît que vous avez rencontré pour de vrai l'ex-chancelière allemande Angela Merkel à Munich, c'est vrai ça?
Excusez-moi de rire. Après mon intervention, si c'est possible, je voulais poser une question à votre invité.
Oui, mais avant, racontez-moi, Angela Merkel, Munich, c'est vrai ou c'est faux? C'est une fake news.
C'est faux.
Et pourquoi? À qui vous avez raconté ça?
Voilà. Non, j'ai dit ça, j'ai menti pour avoir un prestige, c'est tout.
Mm-hmm.
Voilà, pour le prestige. Parce qu'il y a, dans mon lycée, mon ancien lycée, il y a une jeune dame qui était venue d'Allemagne. Mm-hmm. Et vous savez, en Côte d'Ivoire, à partir de la classe de 4e, on choisit d'apprendre soit l'allemand, soit l'espagnol.
D'accord.
Donc, elle était venue pour la création d'un club allemand.
D'accord.
Donc, moi, je l'ai vue. Bon, au départ, j'étais intéressé par la...
Ah, on ne vous entend pas très bien, Daniel.
J'ai créé un cadre amical. Je lui ai dit non, j'ai fait l'Allemagne, que je connais Munich... Je connais, comme on appelle, Stuttgart, Hambourg et autres. Donc, elle était étonnée. Elle dit, ah bon, mais il connaît la ville d'Allemagne, il cite les villes. Je dis, oui, j'ai même rencontré Merkel, on est devenus amis.
Vous vous êtes documenté quand même un petit peu pour que ça ait l'air vrai.
Ah oui. Donc, à la fin, mais je suis devenu son meilleur ami, madame. Parce que voici quelqu'un qui est en Afrique, il connaît l'Allemagne, il connaît les villes. Le nom, et puis il a même croisé la chancelière qui est aujourd'hui son amie. Donc pour ça, j'ai gagné son amitié.
Ouais, j'ai gagné son amitié.
Mais en réalité, je mentais.
Et tout ça pour avoir un petit peu plus de prestige, hein, comme ça, voilà, se dire waouh. Bon, et après, vous lui avez dit que c'était faux?
Ah non, juste jamais su.
Ouais, c'est ça. Alors dites-moi, Daniel, parce que la ligne n'est pas très 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 bonne, quelle question vous vouliez poser à nos invités? Dites-nous.
J'ai lu dans un document, je ne me souviens plus bien, il y a longtemps, qu'il y a le vrai mensonge, le mensonge vrai, le faux mensonge, le mensonge faux. Donc, je voulais savoir si c'était... quelle différence on pouvait faire entre tout ça.
Bon, bah, écoutez, on va poser tout de suite la question à notre invité. Bah, Oscar Brunifié, il y a le vrai mensonge, le mensonge vrai, on dit aussi le mentir vrai ou le faux mensonge. Débrouillez-vous avec ça.
Oui. Bon, on pourrait interpréter cette distinction de tas de manières différentes, mais ce que je voudrais vous dire, c'est, vous voyez, on a un problème avec vos deux invités, c'est qu'ils appellent en disant « j'ai menti ». Donc déjà, quand ils disent « j'ai menti », bah déjà, ils disent la vérité, c'est-à-dire au tout
bah
moins,
oui.
Après, on pourrait examiner. Donc déjà, ils faussent un peu la donne, vous voyez, ils veulent avouer leur péché. Donc déjà, bah, ils ne mentent pas, ils disent en disant « j'ai menti », on dit la vérité, vous voyez, a priori, hein, après on peut
bah oui, examiner de plus près. Bon, voilà. Et le vrai mensonge, le mensonge faux, là, alors?
Alors, parce que un des problèmes que je vois, pour rebondir d'ailleurs à ce qui était dit tout à l'heure, le problème que j'entendais, je m'excuse, je ne rappelle plus de son nom, mais c'était l'idée de la création du mythe. C'est la création du mythe, vous voyez, les mythes. Alors, il y a les mythes collectifs, vous voyez, sur lesquels qui peuvent être d'ailleurs tout à fait positifs, hein, les sociétés sont fondées sur des mythes après tout, mais il y a des mythes qui sont un coup sur... Et puis, il y a aussi des mythes personnels, il y a des mythes familiaux, vous voyez, et le mythe est une des formes les plus, on va dire, classiques, hein, du mensonge.
Oui.
Le problème, c'est dans quelle mesure, par complaisance, alors j'appelle ça le mensonge de complaisance, on va s'engouffrer dans ce mythe, on va le répéter. Pourquoi ? Bah, écoutez, ça nous arrange, ça nous fait plaisir. Mmh. Et à ce moment-là, on est plus prêt, on ne peut plus entendre quoi que ce soit qui voudrait déconstruire ou contredire son mythe. D'ailleurs, il y a une expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui que je trouve très problématique, c'est-à-dire « ça me met mal à l'aise », vous voyez, ça me met mal à l'aise.
C'est malaisant, disent les jeunes.
La vérité met mal à l'aise, la raison met mal à l'aise, mais on va privilégier nos sentiments, on voudrait être bien, vous voyez, et on ne va pas entendre quelque chose qui va déconstruire le mythe. On ne peut plus entendre.
Ouais, je vous interromps, Oscar Brunifié, parce qu'on a notre intervenant en parlant de mythes. On va parler des mythos. Tiens, on est en ligne avec Thomas Rozek, qui est journaliste rédacteur en chef chez Binge Audio. Bonjour Thomas Rozek.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous signez de nombreux podcasts, hein, sur Binge Audio, et notamment une série de podcasts qui nous a intéressés sur les mythos. Ils vous fascinent, les mythomanes, les affabulateurs, comme on les appelle?
Oui, il y a un côté fascinant dans le sens où c'est un réservoir d'histoire assez incroyable. Et ce qu'on se dit à chaque fois, ça peut paraître être un peu une forme de prêt-à-penser ou de truc un peu bateau, mais on se dit que ces histoires-là racontées en fiction, on n'y croirait pas.
Oui, c'est la réalité qui dépasse la fiction.
Voilà, c'est ça. Dépasse totalement la fiction.
Alors, vous en avez raconté pas mal d'histoires dans vos podcasts. D'abord, comment vous les avez sélectionnées, choisies? Est-ce que vous pouvez nous en présenter un ou deux qui vous ont totalement fasciné, qui sont peut-être en résonance aussi avec ce qu'on vit aujourd'hui?
En fait, on les a choisis vraiment, je vous dis, par ordre d'extraordinarité.
Ouais.
On va dire, c'est la puissance de leur récit et la différence aussi de leur récit, parce que chacun illustrait, on va dire, une des mille et une facettes que peuvent prendre le mytho. Mais moi, celui qui m'a le plus marqué et qui était un peu à l'origine de l'envie de faire cette série d'épisodes, c'est John C. Woods. Alors, John C. Woods, c'est un garçon tout à fait étonnant, puisque il est entré dans l'histoire avec un grand H, il fait partie de notre grande histoire collective, puisqu'il était à Nuremberg, au procès de Nuremberg, et qu'il a pendu les dignitaires nazis qui ont été condamnés à mort. Sauf que John C. Woods, même s'il agissait en tant que bourreau officiel de l'armée des États-Unis, il n'était pas bourreau. Il s'était fait embaucher comme bourreau en mentant sur son CV, et donc il avait... construit une espèce de mythe en racontant qu'il avait participé à des exécutions, alors qu'en fait c'était un type qui s'était fait virer de l'armée, qui avait été réembauché au moment de la grande draft, quand ils avaient eu besoin de beaucoup de gens pour aller combattre en Europe. Et donc c'est un type qui comme ça a navigué de manière complètement anarchique, en étant en plus un peu alcoolique, un peu borderline sur plein de trucs, et qui s'est retrouvé à participer à un moment d'histoire. Donc effectivement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on mettrait ça dans un scénario de film,
on n'y croirait pas.
C'est un peu gros. Non, c'est tellement gros que c'est la vraie vie. voilà.
Et je vois que ça vous fait sourire. Je vais faire réagir Pascal Froissart. Si on n'a pas eu le temps d'en parler, bon là on parlait des grands mensonges, des mythomanes quand même. Bon là on va très loin. Un mot quand même, on peut pas ne pas parler des fameux fact-checking, la vérification des faits, un concept dont on parle énormément aujourd'hui, discipline pour les futurs jeunes journalistes, mais arme à double tranchant aussi pour vous.
Alors oui, depuis une vingtaine d'années, on l'a institutionnalisé. Mmh. En même temps, le fact-checking, c'est-à-dire vérifier ses sources, croiser ses sources, c'est pas nouveau. Ça date plutôt de l'émergence des procédures journalistiques, qui elles-mêmes ne sont pas très très nouvelles. C'est quelque chose aussi qu'on oublie, mais c'est que le journalisme n'a que finalement une centaine d'années. C'est au début du XXe siècle que c'est apparu en tant que procédure. Alors le métier de journaliste est plus ancien, mais les procédures, le métier, les routes, elles sont assez nouvelles. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis une vingtaine d'années, on a rajouté à la technicité journalistique, on a rajouté la question du fact-checking en se disant, tiens, est-ce qu'il n'appartient pas également aux journalistes de vérifier a posteriori la véracité ou la fausseté de certaines informations? Il se trouve que sur le fond, tout le monde est d'accord. Oui, il faut vérifier. Oui, c'est intéressant de revenir, de faire une sorte de droit de suite sur des informations qui ont déjà été publiées ou déjà été diffusé. Mais ça pose des questions, en fait, aussi de fabrication de cette information-là. Pourquoi ? Parce que quand on fait du fact-checking, la plupart du temps, on va citer l'information que l'on veut débunker, que l'on veut démentir. Et ce faisant, comme on va choisir des informations qui sont la plupart du temps fausses, on commet un crime de lèse-majesté en journalisme, c'est-à-dire on diffuse une fausse nouvelle.
Ouais.
Et ce seul point, par exemple, est très problématique, puisque en voulant démentir une fausse information, la première chose que l'on fait, c'est qu'on diffuse la fausse information. Alors évidemment, on lui donne un argumentaire derrière qui permet de dire « mais non, ce que je viens de dire est faux ». Mais c'est l'inverse du métier de journaliste. Dans les chartes de journalisme, il est dit « tout bon journaliste ne donne pas de fausses informations de manière volontaire
».
Et donc là, le fact-checking lui-même est assez problématique et en même temps totalement nécessaire.
Ouais.
Donc c'est une vraie bonne question à poser aux futurs journalistes dans les écoles de journalisme.
Clairement. Thomas Rozek, vous qui êtes journaliste, pour le coup, si vous vous intéressez aux mythos, là on n'est pas dans la vérification des faits, on est dans la vérification de l'invraisemblable en fait.
Oui, puis on est dans le récit justement des faits et dans le récit de trajectoire comme ça et de la capacité qu'ont les êtres humains à s'inventer des vies et à finalement y croire eux-mêmes. C'est surtout ça. C'est-à-dire que le mytho, il a ce côté fascinant que on ne sait plus très bien si lui-même n'est pas la première victime de son mensonge finalement, parce qu'il finit par se convaincre lui-même qu'il est que tout ce qu'il raconte est vrai. Et c'est ça qui ne cesse de me fasciner dans ces figures-là.
Il vous fascine aussi, Oscar Brenifier, les mythos, les grands mythos historiques ou pas, qui finissent par croire ce qu'ils disent.
Non, mais oui, mais le problème, c'est que j'aurais, moi, ramené au mythe au quotidien, parce que certes, il y a des mythes qui nous épatent, qui nous fascinent, mais c'est le mythe au quotidien. Et je vais prendre un exemple concret. Bon, moi, je fais de la consultation philosophique, je reçois des gens qui s'interrogent sur leur vie et autres. Et par exemple, j'ai des couples qui se disputent. Et c'est fascinant de voir comment chacun fabrique un autre, l'autre, c'est pas l'autre réel, il le fabrique, si vous voulez, pour que ça l'arrange. Et qu'est-ce qu'en priorité on fait? Quel est le mensonge premier? C'est on veut être une bonne personne, vous voyez, je suis bien, j'ai raison, l'autre a un problème, moi je suis bien. Et là, si vous voulez, ce qui est très difficile quand on a un couple qui se discute, c'est qu'ils arrivent à reconnaître quelque chose qui est à la fois, on peut dire tout simplement les qualités de l'autre ou ce qui est juste chez l'autre, et puis ce qui chez lui-même pose problème. Mais ça c'est ce qu'on voit au quotidien, c'est le petit mythe fabriqué au quotidien qui fait que d'ailleurs les dialogues deviennent très difficiles, vous voyez. Donc c'est cette dynamique par lequel, pour être bien avec soi-même, on va s'inventer soi-même, on va inventer l'autre, et c'est ce que Sartre appelait justement cette mauvaise foi qui fait qu'on fabrique du réel. Et là,
pour terminer, si on n'a plus beaucoup de temps.
Le fact-checking, il se fait quand la personne accepte d'être questionné de manière un peu rigoureuse, un peu rationnelle, et voir s'il est capable de reconnaître que là, il a fabriqué du réel, et ce n'était pas très objectif. Voilà.
C'est ça, et tous ces petits mensonges du quotidien, ces mythes du quotidien, comme vous dites, Oscar Brenifier, on les retrouve dans votre dernier essai, hein. Menteur, phénomène du mensonge, au mois de mai, aux éditions Ancrage. Merci beaucoup d'avoir été aussi avec nous, Thomas Rozek, du côté de chez Binge Audio. Vous restez sur les mythos ou vous allez sur d'autres thématiques?
Non, les mythos font partie de nos thématiques, mais non, on étend beaucoup nos filets, on va un
c'est
peu partout,
ça.
Là où le vent nous-mêmes.
Vous avez raison, merci beaucoup et merci à vous Pascal Froissart et votre livre, je le rappelle, L'invention du fact-checking, Boston 1942-43, il faudra qu'on en reparle, paraîtra également au mois de mai aux éditions PUF. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Allez, à suivre dans quelques instants, Le monde des enfants de Charlie Dupuis, on ne parlera pas de mensonges mais des rêves, c'est juste après le Congolais Balo et la Capverdienne Mayra Andrade avec Matron sur RFI.
Je suis pas susceptible, je suis hypersensible. Mes émotions sont des messagères, femme noire mais pas en colère. C'est pas mes rivières pourpres qui noient mon amour propre. C'est les peurs qui rassurent, les phobies qui structurent, les corps qui raturent. La voix dans les aigus fragilise. Lâcher prise qu'on hystérise. Interdiction de hausser le ton. Reste dans le cadre, la femme trompe.
Kemi kemi. Kemi kemi oulé oulé. Kemi kemi. Kemi kemi oulé. J'ai un cancer et ser forte. Aujourd'hui, je cresso ser mi. Et tout le dia ta simia na bo campo minado. Sem ter é com sorte pra manter em costa riso. Você que boja na minha, uma minha só um tormento.
C'est pas des stories made in order de mon journal extime. Mon intime pour les autres, mais en scène comme en vitrine. Est-ce que tu crains les backlash, les retours de boomerang, les femmes multitask, vu sous un autre angle. Condamné à être des femmes bruissantes, héroïnes, érigées en icônes, mais on peut être résiliente sans avoir des valeurs de bonhomme, image d'Amazon et de guerrière.
L'empathie est un mauvais critère. On te drill, 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 drill. Pas de tache de sang, pas de tache d'huile.
Emi kemi, emi kemi, oulé oulé. Emi kemi, emi kemi, oulé oulé. Emi kemi. Cansa de ser forte, hoje não cresço ser mi. E tururia tá assim, minha nabo campo minado. Sem ter é com sorte pra manter um costa rixo. Cusé que boja na minha, uma minha são tormento.
E fico fino, lo combina. Échappe sous la poitrine. Le cul contre le mur. On rétrécit d'une pointure. Pour éviter les frotteurs, des heures de pointe, absorbé par son écran, inaccessible et hors d'atteinte, à fleur de peau, donc à quand, jusqu'à quand, s'étendre un miroir à mon malaise, creuser un fossé entre deux chaises, répondre à cette impunité archaïque, les hommes possèdent l'espace public, interdiction de hausser le ton, reste dans le cadre, la femme trompe.
Balogi et Marie-Andrade sur RFI. Allez, c'est l'heure de trouver le monde des enfants de Charlie Dupio. Dans cet épisode, on retrouve Fatoumata, Logan, Selma, Issaha. Ils ont entre 9 et 10 ans. Ils sont élèves en CM1 à l'école Anatole France à Villeurbanne, en banlieue de Lyon. Et ils nous racontent leurs rêves dans tous les sens du terme.
RFI.
Le monde des enfants.
On discute entre nous, entre enfants.
Quand je serai grande, j'aimerais bien aider ma maman à la maison. Je vais essayer de trouver un travail pour être riche et la gâter. On aura une belle maison, que tellement elle serait heureuse qu'elle aurait plus besoin de trouver un travail. Parce que j'aime pas voir ma mère travailler tellement dur.
Qu'est-ce qu'elle fait comme travail ?
Elle vend des habits, des bijoux et plein d'autres en Afrique. Elle fait des livraisons.
Moi, mon rêve, c'est que je reste chez moi, un pays qui n'a pas d'école. Comme ça, je serai tranquille pour la fin des temps.
Bah, t'as envie de devenir un youtubeur? Bah, les youtubeurs, ils ont fait l'école.
Bah, oui.
T'as pas envie de devenir un chômeur qui reste assis sur son canapé? Merci. T'as plus envie de devenir quelqu'un qui se déplace un peu, joue avec ses fils au football?
Essaye un petit peu de travailler un peu et peut-être tu vas comprendre que c'est bien l'école. Tu sais, toutes les maîtresses de notre école, ils font ça pour notre avenir.
En fait, j'ai beaucoup de métiers dans ma tête. Du coup, je me suis dit, je peux faire footballeur et faire en même temps maître.
Je vais être présidente, maîtresse. Moi, je ne sais pas quel métier je voudrais faire quand je serai grande.
Présidente ou maîtresse?
Mais j'aimerais bien essayer de faire les deux en même temps, mais je ne peux pas.
Il n'y a pas que ça comme définition de rêve. Il y a aussi les rêves qu'on fait la nuit, quand on dort.
Quand j'étais petite, j'avais fait un cauchemar qui m'a tellement traumatisée. Je croyais que j'allais rester pour toujours dans ce cauchemar, mais...
Qu'est-ce que c'était que ce cauchemar ?
En fait, j'étais en CE1 ou CE2, je ne rappelle plus. Et après, on avait vu un zombie qui rentrait dans la classe. Après, il m'a mordu. Après, quand je suis partie, j'ai vu dans une forêt ma maman. Elle était...
Possédée.
Ouais, possédée par un vampire. Mais heureusement, j'ai pas eu le temps de finir mon cauchemar parce qu'il avait mon frère. Il avait dit qu'il voulait des céréales. J'ai entendu, je me suis réveillée.
C'était le matin.
Ouais. Heureusement, je me suis réveillée parce que sinon, j'allais pleurer.
Là, on parle beaucoup de cauchemars. Est-ce que vous faites des rêves la nuit qui sont pas effrayants?
Un jour, j'avais rêvé que j'étais dans la rue. J'avais vu 3 petits chats. Ils étaient tellement mignons. On avait un noir, un blanc, et on en avait un noir et blanc. Alors, je les ramenais avec moi. Et après, je suis allée à la maison. Je les ai lavés et tout, et je les cachais de mes parents. Et après, avec mon argent de poche, je les ai achetés plein de trucs.
Comment ça s'est passé quand tu t'es réveillée de ce rêve?
Ah bah, j'étais tellement heureuse. En fait, j'avais une joie, j'avais encore envie de rêver. À chaque fois que je rêve à des rêves où je grandis, bah en fait, je suis en colère que pourquoi je suis petite.
Moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est quand on me réveille d'un rêve. Parce que des fois, je peux pas terminer sa suite.
En fait, mon frère, il en sait deux, il s'appelle Cher. À chaque fois qu'il dort, je l'entends en train de dire Fatima. En fait, c'est mon deuxième nom, je m'appelle Fatoumata et Fatima. Et en fait...
Il t'appelle dans son sommeil.
Ouais, il me dit Fatima, attends-moi. Ou dire Maman, Fatima, partez pas. Mais je me disais, mais pourquoi il rêve de moi? Mais ça veut dire qu'il m'aime. Même si on se dispute tout le temps, il pense toujours à moi.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le mot rêve?
Ça veut dire des bonnes choses que tu rêves d'avoir, que tu veux avoir.
En fait, le rêve, c'est l'imagination des enfants. C'est là que les enfants peuvent se lâcher, peuvent rêver de ce qu'ils veulent, quoi. Des fois, on peut rêver avec les yeux ouverts, on peut rêver dans notre tête.
Même en classe, même chez toi, même quand tu manges. Genre, t'as la tête dans les nuages, après, tu rêves de quelque chose.
Rêver, c'est merveilleux, quoi. Ouais, il n'y a pas de limite, on peut dire ce qu'on veut dans notre rêve et que rien ne peut arrêter les rêves, à part si on se réveille.
Est-ce que vous pensez que quand vous serez adulte, vous continuerez de rêver?
Oui. Oui, rêver, mais plus de ce qu'on rêvait quand on était petit, parce qu'on les a déjà réalisés.
Mon père, il a 40 ans, il rêve encore.
Moi, ma mère, elle rêve d'avoir un nouveau appartement, que mon frère et moi, on a une chambre à moi toute seule. Vu que notre maison est petite, on n'a que deux chambres. On a une chambre là, ma mère, mon père et ma petite sœur. Et mon frère et moi, on dort en haut. On a envie de trouver une nouvelle maison parce que notre maison, elle est trop petite.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment dans la vie où on arrête de rêver? On n'a plus de rêve?
Non, jamais.
Les vieux, par exemple, leur rêve, ça serait de pouvoir remarcher, de pouvoir être jeune. Nous, les petits, notre rêve, ça serait de pouvoir grandir un peu plus vite.
Un rêve, c'est infini.
En fait, c'est genre impossible de ne pas rêver. On rêve toute la vie.
Et oui, on rêve toute la vie, et même à 40 ans d'ailleurs. Le monde des enfants, signé Charlie Dupio. Merci à Estelle Perrier, enseignante en CM1 qui a ouvert la porte de sa classe. Un épisode à retrouver comme tous les autres en podcast sur l'appli RFI Pure Radio. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. On se retrouve demain à la même heure avec ce sujet: comment protéger et prévenir les enfants des violences sexuelles? Comment leur parler de consentement, en consentement, le pouvoir de dire non? Avec quels mots, si vous êtes concerné par le sujet, que vous soyez prof ou parent, on attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. Belle journée à l'écoute de RFI.